Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, salut les poulets. J'avais pensé à inviter Sevan Karian pour le prochain épisode. Sevan est avocat, il représente beaucoup de bons joueurs et joueuses. Parmi eux, un champion du monde 2018. Et du coup, c'était pour parler de la tendance de plus en plus observée des joueurs et familles de joueurs à se tourner vers les avocats pour les représenter, les conseiller dans leur carrière et dans la négociation de leur contrat. Donc du coup, je l'ai invité mercredi prochain, mercredi après-midi, pour être plus précis, pour tailler la bavette avec nous. Ok, donc mercredi, les loulous.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous et bonne année.
Bonne année à tous.
C'est la reprise pour Alternative Football. Qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs, Monsieur Cissé?
Déjà la santé.
Avant tout.
Le bonheur. L'harmonie. La prospérité. Oui. Ouais. Et quoi d'autre? Je sais pas. Déjà, c'est pas mal.
Le succès de leur équipe respective. Particulièrement pour une certaine équipe qui joue en rouge et bleu, si je presse pour ma paroisse. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir de recevoir Maître Karian, Sevan Karian, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Sevan.
Bonjour.
Alors, on va toujours t'appeler Sevan ou Maître, comment tu veux?
Non, je préfère Sevan entre nous.
Tu es donc avocat de profession et tu as la particularité d'être avocat dans le sport et de travailler avec des footballeurs.
Tout à fait.
Voilà.
Et footballeuses.
Et footballeuses, exactement. Et on va y revenir dans les grandes largeurs. Et donc, le fil rouge un petit peu aujourd'hui, même si on va digresser sur pas mal de sujets parce qu'on a plein de choses à évoquer avec toi, c'est de comprendre aujourd'hui, parce que ce modèle pour les footballeurs d'être conseillé par un avocat, parfois aussi à la place d'un agent, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc c'est d'essayer de comprendre est-ce que les avocats sont les nouveaux conseillers ou les nouveaux agents des joueurs? Si oui, pourquoi et dans quelle mesure? Donc c'est un peu ce qui va nous occuper aujourd'hui. Il y aura pas mal de choses à dire. Mais Monsieur Cissé, une petite tradition qu'il a développée depuis qu'on fait ce podcast, c'est de poser une question personnelle.
Je pose qu'une question, en fin de compte.
Et non, un peu plus personnelle pour débuter. Qui est?
Non, ce que j'aime bien savoir, et ce que je pense que tous les auditeurs, c'est quoi ton lien avec le foot? Tes premiers amours?
C'est mon grand-père qui m'a donné le goût du football dès le plus jeune âge. Mon grand-père était un émigré rescapé du génocide arménien qui arrivait en France dans les années 20. Et j'ai découvert ses premières photos en France, c'est les photos de lui en équipement avec son équipe de foot à Paris. Et voilà, et il a eu ça toute sa vie. Il était gardien de but, alors ça, il ne me l'a pas transmis. Ma taille ne me l'aurait pas forcément permis non plus.
Gardien de but, tu vois.
Mais ouais, j'ai des photos avec lui et des souvenirs vraiment mes premières années où il m'a donné le goût du ballon rond. Et puis depuis, je n'ai jamais lâché. J'ai joué au foot toute ma vie, en club, bien sûr. Je n'ai pas cette fameuse anecdote des croisés qui m'a empêché de devenir pro. Moi, c'était plutôt, je pense... peut-être le mental, mais voilà, j'étais un joueur correct, j'ai joué un bon niveau.
Quel
et
poste?
Puis numéro 10. À l'époque, des bons
4-4
de losange.
Numéro 10,
c'est pas pareil.
Le 10, je suis gaucher, à l'époque c'était encore un peu plus rare. Et voilà, je continue aujourd'hui évidemment de jouer au foot régulièrement, toutes les semaines. je fais partie du FC Palais, l'équipe des avocats du barreau de Paris, et on a le plaisir de se réunir toutes les semaines pour des matchs de championnat et tous les ans pour des tournois, même internationaux. Il y a même la Coupe du Monde des avocats, figurez-vous.
C'est vrai?
Qui est un événement assez impressionnant avec des centaines de confrères du monde entier et un vrai setup Coupe du Monde où on n'est pas là pour rigoler. Donc c'est très sympa et je continue de vivre de cette passion. Pour être très honnête, si je peux finir là.
Bien sûr.
La question, c'est qu'en fait, j'avais pas, malgré cette passion pour le foot, jamais prévu d'être avocat dans le sport. Et c'est un peu le hasard de la vie qui m'a amené là, en fait. J'étais, alors que je m'occupais d'une activité humanitaire pour l'Arménie, dont je suis originaire, en fait, je voulais organiser tout simplement un tournoi de foot pour lever des fonds, pour me permettre d'aller construire un terrain de foot en Arménie. Et en fait, c'est à cette occasion que je me suis retrouvé entouré de plein de joueurs, d'anciens joueurs, consultants, agents, etc. Et c'est à cette soirée de gala de ce tournoi qu'a commencé mon premier contact d'un ancien joueur qui m'a dit « T'es avocat, ça m'intéresse parce que j'ai besoin de conseils. » En l'occurrence, ouais. En plus, j'ai pas commencé par n'importe qui. C'était effectivement un ancien champion du monde de la génération 98 que j'ai eu la chance d'accompagner sur la partie image. Et puis après, ça a été le début.
Mais c'est souvent ça, les belles histoires. Ouais. Tu vois, t'es pas parti pour faire d'aller dans cette direction-là et Madame, je sais pas quoi, Madame Irma te met là, c'est extraordinaire. Ouais. Et donc c'est à partir de là que tu décides. Enfin non, tu dis pourquoi pas, je peux mêler mon job d'avocat avec ma passion. Why not?
Tout à fait, en fait, ça coïncidait en plus avec l'époque où moi je venais de m'installer à mon compte. J'avais fait 4 années en cabinet d'avocat, gros cabinet d'affaires.
T'es relativement jeune, tu peux dire ton âge?
Oui, j'ai 37 ans.
C'est jeune quand même.
Comme moi.
À l'époque. Ouais.
Vous êtes jeune en fin de compte, les gars.
Donc, j'étais même avocat à 23 ans, donc effectivement c'était très jeune. Bon, j'ai voyagé un peu avant vraiment de passer au concret, mais donc j'ai fait quelques années en cabinet, c'était des gros cabinets anglo-saxons. C'était pas du tout le type de structure qui correspondait à ma personnalité. Moi, je suis plutôt électron libre. J'avais envie d'être, profession libérale, comme d'accord. On dit. Pour moi, ça coïncidait pas avec un boulot en entreprise, avec des patrons, des horaires, et puis surtout des horaires qui sont très, très durs en cabinet d'avocat. Donc, à l'époque, je m'installais à mon compte et je me suis dit, je vais tenter l'expérience. Je vais voir où ça m'amène. Honnêtement, j'avais des dossiers divers et variés, mais très très loin de ce que j'imaginais. Et voilà, je voulais juste porter la robe, aller plaider, défendre des gens et conseiller. Et voilà, et cette activité donc associative m'a mené à gérer pour la première fois, c'était un contrat d'image en fait. En l'occurrence, d'accord. C'était donc un ancien joueur qui était sollicité pour être ambassadeur d'une marque et donc faire toute une campagne de publicité. Et donc... voilà, quand il m'a posé la question si je m'y connaissais, je lui ai évidemment dit oui, c'était pas forcément vrai.
Est-ce que t'avais pas fait du droit du sport? C'était pas ta spécialité?
Pas du tout. À mon époque, honnêtement, il y avait très peu. Enfin, à mon époque, je suis encore une fois pas si vieux, mais il y a 15 ans, les masters en droit du sport, je suis pas certain que ça existait, ou alors il y en avait vraiment peu.
D'accord.
Donc, non. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose de très régulier. Enfin, on en a beaucoup. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers ça. Je pense qu'à l'époque, c'était pas du tout... pas du tout de la mode, on va dire. Ouais. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, il faut aussi expliquer que le droit du sport, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en réalité, il y a un code du sport, c'est vrai. Mais le droit du sport, ça réunit beaucoup de branches différentes du droit. Donc là, encore une fois, en l'occurrence, c'était du droit à l'image. Donc qui réunit en fait de la propriété intellectuelle. C'est comment on va exploiter les attributs de la personnalité à travers une marque. Donc voilà, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le nom, l'image, la signature, la voix, et comment on va l'utiliser, sur quel support, sur quel territoire, de quelle manière, etc.
C'est la même chose pour si ça avait été un acteur, un chanteur, oui,
exactement.
Là, le fait que j'allais dire, un sportif ou un footballeur change rien.
Tout à fait, le droit à l'image s'applique aussi aux personnalités, quelles qu'elles soient, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de entertainment, de manière un peu plus générale, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'accompagne des clients... pour le coup, qui sont plutôt des artistes, ça peut être des comédiens, des chanteurs, et ça marche aussi. Donc là, en l'occurrence, c'était ça, et le droit du sport, encore une fois, aujourd'hui, si on est dans les sports collectifs, notamment, alors moi, c'est une majorité de mon activité avec le football, c'est du droit du travail, en fait. Simplement appliqué au sport. Et ensuite, on a du droit, plus, on va dire, du droit civil, du droit des contrats, lorsqu'on traite des sujets de transfert, de prêt, ou alors les contrats qui lient les agents à leurs joueurs ou à des clubs. Et après, évidemment, tout l'aspect régulatoire qui dépend des sports, puisque bah, voilà, le foot va être régi par, en France, la charte du football professionnel pour les joueurs, les régulations FIFA, les régulations LFP, etc. Donc,
on va en parler de ça, justement, parce que c'est le nerf de la guerre. C'est quoi, donc, un mandataire sportif?
C'est une bonne question. Alors, en fait, le statut de mandataire sportif, il a été créé en 2010 par une loi qui était la loi pour la modernisation des professions juridiques, je crois. C'était le rapport Darrois à l'époque, où on cherchait un petit peu, on va dire, à adapter la profession juridique et créer un peu ce qu'on appelle les nouveaux métiers du droit. Parce qu'encore une fois, bon, l'activité d'avocat un peu traditionnelle va aller se cantonner peut-être à de la plaidoirie, à du judiciaire, à du conseil un petit peu. Mais là, du coup, voilà, on ouvrait un peu la profession à d'autres voies. Et donc, notamment, ça a pu être aussi la même chose dans l'immobilier, où les avocats ont droit aujourd'hui d'être un équivalent d'un agent immobilier, d'avoir une carte et une autorisation pour faire des transactions. On appelle ça mandataire en transaction immobilière. Bah, la même chose dans le sport. Le mandataire, en fait, c'est le terme juridique. Hein, lorsqu'on a un contrat avec un agent sportif, finalement, le joueur est le mandant et donne mandat au mandataire qui est l'agent pour réaliser un certain nombre de prestations. D'accord. Donc on a créé ce statut, mais honnêtement, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'était quelque chose qui n'a pas servi à grand-chose. Et on venait un peu enfoncer une porte ouverte, puisque finalement on venait dire avec le mandataire sportif, il y a la loi qui est venue préciser que l'avocat a le droit de conseiller un sportif dans le cadre de la signature de son contrat de travail.
Ce qui était déjà la pratique.
Exactement. Ouais, un avocat a toujours été autorisé à accompagner qui que ce soit pour la signature d'un contrat. C'est d'ailleurs, a priori, ça fait partie de nos fonctions. On est juste venu, entre guillemets, on a voulu le clarifier, en fait, je pense, et ça a créé un peu l'effet inverse, puisque depuis, on voit qu'il y a de nombreuses discussions, débats et même conflits maintenant autour du statut du mandataire sportif, ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et notamment par rapport à des agents.
Ouais, j'allais.
On sait que les agents sont. Encore une fois, on ne va pas faire de généralité, mais en tout cas, si le syndicat qui les représente est plutôt contre, on va dire, l'arrivée des avocats dans le milieu du sport et un peu sur leur terrain, qui est celui de l'agent sportif.
C'est pas un peu, c'est carrément. Parce que, voilà.
Mais d'où ça vient, ça, justement, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Pourquoi il y a cette... alors, c'est pas une défiance, mais pourquoi il y a cette situation où, alors que c'est des gens avec qui vous collaborez et avec qui, historiquement, les avocats ont toujours travaillé, pourquoi on est passé d'une relation de travail à une situation où il y a un peu de tension entre les deux fonctions? Est-ce que tu saurais l'expliquer, ça?
Oui, je pense que bon, y a une part qui est assez légitime. Bon, déjà, comme tu le dis, hein, on est normalement amené à travailler ensemble. Moi, pour être honnête, la majorité de mes clients sont des agents sportifs. Il m'arrive de travailler en direct avec certains sportifs qui, comme tu me l'as dit, n'ont pas forcément envie d'un agent, mais d'un avocat. Et ça, c'est souvent quand on arrive à un certain stade de sa carrière.
Où il n'y a pas besoin notamment de faire du commercial, par exemple. Il y a certains joueurs qui n'ont pas besoin d'aller taper à la porte des clubs pour dire « voici mon CV ».
Voilà.
Parce que le CV...
Et on y reviendra, parce que c'est justement mon cas de figure et ce pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec le dernier arrêt qui a été rendu récemment, qui, mon avis, n'a pas compris vraiment le fonctionnement du milieu. Mais donc, effectivement, les agents peuvent faire appel à des avocats, devraient, je pense d'ailleurs, systématiquement, mais l'inverse peut être vrai. Pourquoi conflit...
Je te coupe, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que tu as des agents qui ne font pas appel à des avocats pour les rédactions de contrats, par exemple, arrive.
Ça m'est arrivé de le voir. Moi, d'accord. Je peux aussi être parfois conseil de club et je vois quand j'envoie un contrat à un agent pour le compte d'un club, il peut arriver effectivement qu'on me fasse un retour direct sans passer par un avocat. Mais justement, en fait, pour revenir à donc, ta question, pourquoi ce conflit? Et pourquoi, bon, je pense qu'il est un peu légitime, c'est qu'en fait, les agents sportifs, et c'est une exception française, hein, puisqu'on sait que la FIFA a complètement dérégulé depuis 2015 et que pour être aujourd'hui ce qu'on appelle plus agent d'ailleurs, mais intermédiaire, il suffit de payer des frais d'inscription, remplir un formulaire. Dans tous les pays du monde, quasiment, vous pouvez du jour au lendemain, vous, votre femme, votre sœur, n'importe qui, être intermédiaire. En France, on a gardé, on aime bien avoir l'exception française, on a gardé le système de licence pour être agent. Donc effectivement, en France, il faut passer un examen auprès de la Fédération française de football et les fédérations donc, pour chacun des sports, pour devenir agent sportif et donc obtenir une licence qui vous permet d'exercer. C'est un examen, il n'est pas facile, il nécessite du travail et puis surtout, je pense, il est là pour réguler un peu justement, puisque c'est un nombre assez limité de candidats finalement qui ont leur licence chaque année. Donc il y a un nombre limité, je pense qu'ils sont quelques centaines en France à être agent sportif FFF. Ah ouais,
licence, ouais. Je crois qu'il y en a un peu plus. Hein. La licence, je crois qu'il n'y a pas 400 ou 400 voilà. agents. 400
je sais agents, quand même
quelques centaines. Boss, il n'y en a pas beaucoup.
C'est ce que je dis, donc c'est peu finalement. Et ils se retrouvent, donc ils ont bossé, ils ont ça, ils sont un peu protégés, on va dire, par ouais. ces quotas, entre guillemets, qui sont là, existants. Et finalement, d'un coup, cette loi de 2010, finalement, elle est venue juste mettre la puce à l'oreille à beaucoup d'avocats ouais. qui se sont dit « Ah oui, mais c'est vrai, je pourrais faire je ça, pourrais moi faire aussi, ça. Moi aussi j'aime le foot, moi aussi je sais négocier des contrats, finalement moi aussi je peux accompagner un joueur dans la négociation de son contrat. »
Puis je peux gagner plus.
Et alors ça, c'est encore un autre sujet, mais ça peut être le cas.
Sur
mais surtout,
villes.
Du coup, on voit arriver, il faut savoir qu'il y a 60 000 avocats en France. Enfin, peut-être que les chiffres d'ailleurs ont évolué, mais au dernier mois, mais c'est les chiffres que j'ai en tête, donc d'accord. presque la moitié à Paris. Et donc effectivement, vous avez ces 400-500 agents sportifs qui, du jour au lendemain, voient débarquer 60 000 potentiels concurrents. Et c'est ça, je pense, qui leur fait peur et qui les dérange, et ils ressentent du coup une certaine forme d'injustice. Donc, je comprends, c'est légitime. Maintenant, là où, sincèrement, je ne partage pas leur opinion, et ce n'est pas parce que je suis avocat que je dis ça, j'essaie d'être objectif, c'est que déjà, il faut savoir, l'examen d'agent sportif, bon, il est dur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais ça reste un QCM. Donc, c'est un QCM, et si vous avez la moyenne au premier examen, 10 sur 20, vous passez l'examen, vous allez au spécifique ensuite, qui est donc par sport, et là, il faut avoir un peu plus... Mais c'est un QCM où moi, j'ai été enseignant dans des écoles qui forment justement les candidats à l'examen d'agent sportif. J'étais d'accord. responsable pédagogique de ce genre d'examen et de formation. Je sais ce que c'est, honnêtement. J'ai beaucoup de candidats qui m'ont dit « Bon, bah moi, je connaissais pas la réponse. J'ai mis au pif, j'avais une chance sur quatre, j'ai eu la moyenne, je suis agent. » Et quoi qu'il en soit, c'est le niveau
tu veux
de
dire
cet
c'est
examen.
Facile, quoi. C'est-à-dire que
non, c'est pas
n'importe
facile.
Quel avocat, grosso modo, qui est avocat, il décide de passer cette licence... franchement, il faut qu'il ait le Covid pour pas le passer, quoi.
J'irai pas jusque là non plus. D'ailleurs, je connais quelques confrères qui ont voulu le passer, qui l'ont raté. Donc, ça peut.
Ils
arriver.
Avaient pas le bon responsable pédagogique.
Non, mais disons que non, parce que c'est vrai, c'est un programme, mais c'est n'importe quoi. C'est un examen, et ça, je pense qu'on peut être d'accord avec les agents, qui est pas du tout adapté. C'est un examen. Alors,
oui,
à mon avis, en niveau de droit, effectivement, t'es sur un niveau licence. Okay. Donc, l'avocat, logiquement, il a un niveau qui est bien meilleur en droit. Par contre, l'examen, c'est du droit de la sécurité sociale, du droit des contrats, du droit du travail, du droit des assurances, du droit... Enfin, il y a plein de choses, c'est extrêmement large. Et les questions qui sont posées parfois sont d'une complexité, enfin, c'est très très précis. Dans la vraie vie, même un avocat, il faut arrêter de croire que l'avocat, ce qu'on disait nous en études de droit, il faut tout connaître par cœur.
Non,
c'est pas vrai, j'ai jamais rien appris par cœur. Moi, aux examens de droit, on a le droit à nos codes. Donc en fait, le bon avocat, c'est pas celui qui connaît les lois par cœur, c'est celui qui comprend la problématique et comment aller chercher la bonne loi pour l'appliquer à un cas précis, la contourner le cas échéant et l'adapter. Enfin, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. L'objectif, ouais.
Et donc du coup, quand vous vous retrouvez en examen d'agent sportif et qu'on vous demande si un joueur après 32 jours d'ITT a le droit à combien de pourcents de sa rémunération par la sécurité sociale,
ça n'y que ni t'as quoi.
C'est un truc qui, dans la vraie vie, vous consultez votre avocat. L'avocat, s'il ne connaît pas par cœur, il regarde les textes, il vous fait une réponse adaptée en quelques minutes, quelques heures. Mais voilà. Donc, cet examen, c'est du droit. Et on n'apprend absolument pas dans cet examen à comment on accompagne un joueur, comment on négocie un contrat, comment se comporter avec un club, un dirigeant, un directeur sportif, qu'est-ce qu'un 4-4-2, un 4-4-3. Enfin, au final, on peut être agent sportif avec une licence d'agent sportif et ne rien connaître au foot. Donc c'est pour ça que je trouve, pour le coup, pas forcément très légitime, parce qu'à l'inverse, c'est pas parce qu'on est avocat, qu'on porte une robe de temps en temps et que certains nous appellent maître, qu'on est des incultes au niveau footballistique. Et je prends mon exemple, il y en a plein d'autres. Voilà, on est aussi comme des certains agents, des spécialistes du foot. On sait de quoi on parle, on connaît, on comprend le milieu. Et encore une fois, là, c'est là où je te rejoins, je pense. Sans offense aux agents, parce que je sais que le sujet est très sensible, je vais offenser personne, mais je pense qu'effectivement l'avocat est souvent, voire très souvent, meilleur que l'agent sur la partie juridique, vraiment très concrète de la technique contractuelle. Et que donc nos métiers, en fait, au final, moi je ne comprends pas cette guéguerre, parce que je pense qu'ils sont complémentaires.
Ouais, mais sauf que de plus en plus, c'est pour ça que les familles, certaines familles se tournent plus vers les avocats que les agents, parce qu'ils ont compris que le nerf de la guerre, c'était le contrat, les négociations du contrat, et bien protéger le joueur, enfin leur fils.
Tout à fait.
Et donc, c'est pour ça que c'est, les agences ont de plus en plus peur.
Et puis, je crois que l'un des points d'achoppement et sur lequel il faut peut-être aussi apporter des clarifications, c'est le côté commercial. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que dans votre fonction, vous n'avez pas le droit, en théorie, de faire du commerce, c'est-à-dire de démarcher commercialement et de faire ce travail-là, qui est en gros 90% de ce que sont censés faire les agents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette réalité ou pas de la fonction d'avocat et si effectivement c'est ça qui cristallise aussi un peu les tensions ?
Effectivement, l'avocat, il faut savoir, la profession, nous, on est régulé par un code qui est le code de déontologie des avocats. Ouais. Chaque ordre émet édicte ce code. Et effectivement, en théorie, donc, l'avocat n'a pas le droit d'exercer une fonction commerciale. Et ça, c'est encore une fois la position très traditionnelle. Il faut voir à quelle époque était rédigé le code de déontologie, où l'avocat, avec sa robe, plaide, maître, et évidemment, voilà, va pas prendre son téléphone pour aller ni faire de la publicité, ni du commerce. Ouais. On est censé être, voilà, des hommes de loi. Maintenant, encore une fois, ça évolue. Je pense que la profession se modernise, la société évolue, les pratiques évoluent. Aujourd'hui, la règle, c'est que l'avocat n'est pas censé faire d'activité commerciale, sauf si elle est un accessoire à la prestation juridique qu'il offre à son client. Et donc, encore une fois, où se trouve cette limite entre les deux ? Je ne sais pas. En l'occurrence, toi, tu parles, tu viens de dire, Mathieu, effectivement, 90% de l'activité d'un agent, finalement, c'est de faire du commerce. Ouais. Parce que c'est quoi ? C'est prospecter, démarcher des clubs pour essayer de proposer ses joueurs.
Exactement.
Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, ça dépend. Ça dépend et on ne peut pas généraliser.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ben, moi, j'accompagne certains joueurs, un en particulier qu'on connaît. Enfin, je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone et d'appeler les clubs.
Ouais. Donc là, tu es dans ton droit. C'est-à-dire que ton joueur est tellement connu que c'est grosso modo les clubs qui appellent, soit lui, donc il te le flèche, qui t'appelle, et là, du coup, tu fais quoi ? Bah là, c'est...
Et là, on rentre dans ce qui est, à mon sens, pleinement notre fonction, c'est de la négociation et de la rédaction juridique. Alors, encore une fois, j'ai une petite anecdote que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'un jour, à la Fédé, suite à la réception d'un mandat qui prévoyait donc, que l'avocat mandataire sportif était missionné pour assister un club dans la négociation et la rédaction d'un contrat de travail, on m'a appelé en me disant « Ah, votre mandat, il est pas valide parce que l'avocat n'a pas le droit de négocier. Il a juste le droit de rédiger. » Bon, bah, c'est une nouvelle, j'avais jamais entendu ça. « Ah oui, vous êtes des hommes de loi, vous avez le droit, en gros, de faire tout ce qui concerne les lettres, mais les chiffres, c'est interdit. Merci, je vais appeler tout de suite mon ordre, les 60 000 confrères qui ne doivent pas être au courant, parce que, a priori, c'est quand même le cœur de notre métier, en tout cas d'une bonne partie de notre métier, que de négocier pour nos clients et, encore une fois, de sécuriser ces négociations dans des accords juridiques. Donc, effectivement, quand on est sollicité, on a un joueur qui est internationalement connu.
Tu peux le dire ou pas ? Tu peux le dire ou pas ?
Oui, c'est officiel.
Mais c'est juste pour toi. Hein.
Bien sûr, non, mais j'ai pas de problème. Au contraire, je suis ravi j'ai la chance, la fierté. Je suis très heureux d'accompagner Antoine Griezmann depuis des années maintenant. Alors au début, effectivement, c'était assez confidentiel et je l'ai jamais dit, puisque on est soumis aussi, et ça c'est une autre sécurité. On
c'est
peut en parler, mais l'avocat est soumis à la confidentialité.
C'est pour ça que j'ai posé la question.
Et ça c'est quelque chose
très bien renseigné, mais
quelque chose de très intéressant pour les parties. C'est une sécurité en plus que les agents n'ont pas, encore une fois, puisque nous on a prêté serment. Si on viole ce secret professionnel et la confidentialité de nos échanges, qu'ils soient avec nos clients ou nos confrères, on est passible de radiation et puis d'un certain nombre de sanctions qui sont assez graves. Mais donc, en l'occurrence, pour Antoine,
c'est ce qui peut aussi aux familles. À un
tout
donné,
à fait, bien sûr.
Tu parles avec un agent, l'agent, il peut baver, surtout avec... il a des amis journalistes, et donc, du coup, il peut baver sur place.
Alors, l'avocat peut le faire aussi, mais il est passible de sanctions.
C'est-à-dire
parce qu'il ne faut pas croire non plus. Au-delà, je ne suis pas là pour dire qu'on est tous des saints.
Mais d'un autre côté, c'est toujours un vrai débat, parce qu'avec Mathieu, on discutait, il y a beaucoup de plus en plus, il y a une tendance qui fait qu'il y a beaucoup de familles ou de joueurs qui acceptent de se passer d'agent. Et qui vont vers les avocats mandataires. C'est pas seulement parce qu'il y a ils sont meilleurs en conseil juridique, c'est aussi parce qu'il y a tout ce côté confidentiel aussi.
Je pense. Et encore une fois, pour revenir sur un cas comme Antoine, parce qu'on le voit aujourd'hui, en tout cas les plus connus qui sont accompagnés que par des avocats et non des agents, c'est un peu c'est top. C'est vrai. On sait que Kylian Mbappé c'est son cas, Messi c'est son cas, Neymar c'est son cas. Bon, ils ont leur père, c'est un peu différent.
Ouais. Mais ils s'appuient sur des avocats,
Voilà, exactement.
Paul avec Mino Raiola, Feu Mino Raiola et Rafael Apimenta.
Ouais, donc bon, pour le coup, ils avaient des agents, mais C'est vrai que là, donc, dans ce cas précis d'Antoine, clairement, je ne vais pas appeler les clubs pour leur dire, vous savez, c'est un joueur qui est gaucher, qui a une belle vision du jeu, qui fait beaucoup d'efforts défensifs, il est capable de marquer, mais aussi de faire marquer. Ben, voilà. Enfin, ouais. Donc, ça n'existe pas. On m'appelle, les appels, ils sont entrants. Avec Antoine, c'est encore plus particulier, puisqu'il a, voilà, il avait des... Il a des envies plus,
plus précises,
on a vu, il n'a pas fait beaucoup de clubs, il n'est pas... voilà, c'est, donc vous avez un ou deux clubs avec qui vous discutez, et encore une fois, vous êtes en plein dans votre cœur de métier, qui est la négociation et la rédaction de contrats et la protection des intérêts.
Est-ce que tu peux comprendre la frustration de certains agents ? Les agents, ils veulent conseiller les joueurs. C'est-à-dire que, grosso modo, Antoine fait son match, et est-ce que le soir même... Ou le lendemain, tu dis à Antoine, bon, t'aurais pu marquer ce but, tu fais pas de débrief de match avec Antoine Griezmann.
Mais je répète, alors moi ça m'arrive parce qu'on parle un peu ballon, parce qu'on cool. aime bien ça. Antoine en parle avec son père qui a été son entraîneur et qui est aujourd'hui encore très impliqué dans le foot et qui peut lui donner des conseils. Mais encore une fois, l'agent sportif, c'est pas parce qu'il a une licence FFF et qu'il a rempli un QCM de droit qu'il est... plus
non, mais je te crois,
compétent
mais...
pour faire ça non, avec mais... son joueur. Donc non, pourquoi mais... un avocat n'aurait pas le droit finalement de débriefer, si t'es dans le droit du sport, de débriefer sur la prestation sportive de son joueur ? Il pourrait le faire. Moi, personnellement, je le fais pas ou peu, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand un joueur est dans un club, on connaît les staffs qu'il y a dans les clubs, les clubs de foot. Franchement, entre l'entraîneur, le prépa physique, le responsable de la performance, les uns les autres... Je pense qu'ils sont assez bien entourés déjà et assez bien conseillés. Maintenant, oui, venir lui donner des conseils, des points de vue, des choses. Et puis surtout les joueurs eux-mêmes. Je pense que la plupart des joueurs, alors ça ne marche pas pour les jeunes. Effectivement, l'agent a une expérience en plus. Mais à un certain âge, honnêtement, je pense que la plupart des joueurs sont beaucoup plus compétents que leur agent pour parler foot et leur dire ce qui est bien, pas bien et comment ils font. Et donc parfois, vous allez dire pourquoi t'as pas tenté ta chance ou pourquoi t'as pas joué plus haut ou pourquoi t'es pas revenu. Parce que c'est une consigne du coach. Vous la connaissez pas forcément. Donc encore une fois, bon.
Quand Antoine a connu un moment un peu particulier au Barça, est-ce que tu as eu un rôle de conseiller, comme on dit Tu vois, tu lui as dit écoute, vas-y. Mange un peu plus de pata negra ou quoi que ce soit. Tu vois, ou alors tu lui as dit, on parle pas foot et puis c'est pas grave, c'est la vie quoi.
Non, clairement pas. Et puis en plus, Antoine, quelqu'un, voilà, très famille, et il a sa sœur qui est aussi sa conseillère, il a son père, il a sa femme, il a plein d'amis. Et, donc il sait faire la part des choses là-dessus.
Oui, t'as
c'était
t'as
pas
ton
forcément
rôle,
mon rôle. Moi, je suis vraiment sur la partie juridique, la partie négociation, la partie accompagnement, les transferts. Les contrats de travail, les contrats d'image. Et
Mais on parle de sous, attends, excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie.
On parle de sous-sous. Comment un avocat mandataire, comment il fait pour se faire rémunérer ? Autant un agent, il a des commissions, c'est acté, 7% et demi, voire 10 pour certains.
Alors la loi, effectivement, au code du sport, prévoit que l'agent sportif, ça c'est en France,
c'est parce
que pas dans les autres pays, la commission est plafonnée à 10% du montant du contrat sur lequel l'agent est intervenu. Pour les avocats, là encore, c'est notre code de déontologie qui régule les honoraires. Y a un principe, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se rémunérer uniquement au résultat. Donc en fait, à la commission. Un avocat, en général, un honoraire qui est un honoraire au temps passé. Donc on a chacun nos taux horaires qui sont assez transparents avec nos clients et vraiment au temps passé. Ça peut être difficile parce que parfois, quand le client a quand même envie de savoir combien ça va lui coûter finalement, parce que est-ce que vous allez y passer 2 heures ou 20 heures, on ne sait pas, donc c'est difficile à dire. Est-ce qu'on peut faire un forfait ? Donc ça, c'est autorisé également. Donc c'est un forfait qui va être fixe, qui va être un montant, non pas un pourcentage. Après, faut pas oublier que l'avocat a évidemment le droit, et c'est souvent le cas, d'avoir ce qu'on appelle un honoraire complémentaire de résultat. Il est en complément de l'honoraire de base.
La terminologie, c'est ça ?
J'adore. Franchement, le droit, j'aurais dû en faire du droit.
Pourquoi ? Ce qui lui plaît, je pense que c'est la terminologie.
C'est les subtilités. Ouais. Non, en fin de compte, voilà. Mais par contre, on a droit. Mais un petit honoraire.
Attention, mais c'est légitime.
Complémentaire de quoi ?
De résultat.
De résultat qui fait que, effectivement, on peut
ce qu'on,
se faire
chez
les
Américains, on appelle le success fee.
En or.
Mais c'est une évidence. Enfin, pardon. Ouais.
Non, mais c'est ce qui.
Imaginez-vous, regardez, je vais vous prendre le cas qui est extrêmement simple. J'ai, que ce soit un contrat ou un contentieux. Pour une joueuse, par exemple, où l'enjeu du contrat va être de, je sais pas, 30 000 euros, par exemple. Donc, vous allez passer un certain temps. Négocier un contrat de sponsoring pour une joueuse de foot ou un contrat de travail ou un contrat d'image avec une marque, ça peut vous prendre autant de temps, voire parfois plus, que de négocier un contrat pour une star,
ouais, je comprends,
un grand joueur. Donc vous allez avoir un contrat à 30 000 euros, puis de l'autre côté, vous allez avoir un contrat, je ne sais pas, 1 million d'euros. Vous allez passer quasiment autant de temps, voire encore une fois un peu plus de temps sur le petit contrat que le grand contrat. Après, il ne faut pas oublier que nous, on est là pour prévoir cette sécurité juridique au client. Et en échange de ça, il faut le dire aussi, je ne suis pas sûr que tous les agents aient cette garantie-là, c'est que nous, on a une responsabilité professionnelle, responsabilité civile professionnelle. Si demain, l'avocat commet une faute dans son conseil auprès de son client, le client peut se retourner contre son avocat et engager sa responsabilité civile professionnelle auprès de son ordre. Avec nous, d'ailleurs, on est assuré jusqu'à un certain montant qui est très important, plusieurs millions d'euros. Si vous faites une faute. Donc nous, il ne faut pas oublier aussi que nos honoraires, ils sont là. Bon, alors, et ça aussi, ça va te faire rigoler, Edouard, peut-être, mais je te le précise, le code de déontologie nous donne des directives un peu pour fixer nos honoraires. Et on dit que l'honoraire de l'avocat doit être fixé sur plusieurs choses. Un, c'est la compétence de l'avocat. Bon, on est plus ou moins bon, donc on a le droit à plus ou moins un tarif. Ensuite, c'est la complexité du dossier. Et on peut effectivement facturer un peu plus pour un dossier plus compliqué, par exemple qui est en langue étrangère, avec plusieurs droits qui interviennent, etc. Et trois, c'est ça qui va te faire rire, la situation de fortune du client. Et donc, on a même le droit d'adapter, donc ça c'est le taux horaire. Hein. Bon, toi, tu gagnes 3000 euros par mois, toi t'en gagnes 1 million, bon bah toi je vais te facturer un peu plus cher que à toi. Ce qui me paraît d'ailleurs bon, assez juste.
C'est honnête, le truc c'est que c'est honnête.
Alternative football.
Mais tu as dit que tu as engagé ta responsabilité civile. Et du coup, alors, je pose une question. Tu m'as dit que tu as été des clients qui étaient agents. D'accord ? Ça veut dire que s'il y a, sur un contrat que tu as rédigé, il y a une petite coquille, tu as fait une erreur, l'agent, il est responsable de rien, c'est toi.
Tout à fait.
Putain, ouais, c'est fou,
si
quoi.
Si moi, je rédige un contrat, par exemple, un agent me dit, voilà, j'ai un joueur, je veux que tu me rédiges le mandat qui va me lier à ce joueur, je veux que tu me protèges, je veux une exclusivité, je veux 10%, je veux le territoire, je veux ci, je veux ça. On lui fait son contrat. Imaginons que ce X années plus tard, et ce qui arrive souvent, moi j'ai beaucoup d'activités de conseil pour les agents, mais aussi bien sûr de contentieux, le joueur décide de changer d'agent avant la fin de son contrat avec son agent, donc lettre de rupture anticipée, je vais avec un autre agent, je signe dans un club avec un autre agent. L'ancien agent qui se sent lésé veut l'attaquer. Et on se retrouve dans le tribunal et vous voyez que finalement il y a une clause contractuelle dans le mandat qui vous empêche parce que bah, finalement elle était mal rédigée, elle prévoyait pas telle ou telle mission, pas tel territoire ou je ne sais quoi. Évidemment que dès lors que vous pouvez, donc l'agent va prouver qu'il y a une faute, un préjudice et un lien de causalité directe entre cette faute et ce préjudice, c'est un peu les règles classiques de la responsabilité civile, bah là, en l'occurrence, vous engagez la responsabilité civile professionnelle de votre avocat et vous pouvez obtenir une indemnité pour ça. Alors, heureusement, je croise les doigts, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé récemment, pour le coup, alors...
Mais un agent,
d'engager la responsabilité, justement. J'ai un agent, moi, qui a eu ce problème-là. Et quand j'ai vu le contrat, bah, c'est vrai que je me suis permis de lui dire, mais c'est très, très mal rédigé, puisqu'effectivement, quand tu lis ça, eh bah, ça exclut tel ou tel cas de figure. Et donc, là, en l'occurrence, tu peux rien faire contre ton joueur qui est dans ses droits. Et donc, bah, on a engagé la responsabilité civile de l'ancien avocat pour avoir commis une faute qui a causé un préjudice, effectivement, au joueur. Alors après, c'est un autre problème, parce qu'on rentre dans les contentieux avec l'assurance du barreau concerné, comme souvent, va chercher la faille pour ne pas indemniser. Mais ça existe, clairement.
Non, mais c'est ce que je voulais dire par mon intervention précédente qui était sûrement pas suffisamment bien formulée, mais tu es dans un métier qui est extrêmement codifié, avec des règles très précises, et c'est pour ça que je trouve pas ça déconnant, si tu veux, ce success fee de l'avocat, parce que t'es quand même limité, en tout cas très cadré dans l'exercice de ton activité. Et ça, ça se valorise avec en plus une connaissance qui est liée au...
Tout à fait. Et alors, en complément quand même pour répondre à votre question, c'est que on a justement l'avocat mandataire sportif. Et c'est là où je vous disais que c'est venu créer plus de problèmes que de solutions, cette histoire de statut, parce qu'à l'époque, avec la loi de 2010, on crée ce statut. On vous dit que l'avocat a le droit d'accompagner les sportifs dans la négociation de leur contrat, mais on ne dit pas qu'en est-il des honoraires et de la modalité de paiement. Alors, est-ce que finalement, l'avocat mandataire sportif a le droit d'avoir juste une commission, puisqu'on pourrait considérer que c'est un statut un petit peu à part? Et aujourd'hui, le fait est qu'effectivement, les avocats mandataires sportifs, moi, je le fais pas. Je suis pas avocat mandataire sportif, ou vraiment à titre exceptionnel, et encore une fois, plus pour les joueuses. Mais quand on est... Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de mandats, donc entre un mandataire sportif et un joueur, qui prévoit en rémunération uniquement une commission.
Oui, une commission. Bah, c'est ça, ce que j'ai entendu. Existe. Il y a beaucoup d'avocats mandataires qui prennent des coms. Et donc, ça foutait le bordel au niveau des agents. Et puis même de l'extérieur, tu dis, mais c'est quoi? Mais t'es avocat, tu peux pas prendre une com. Et si tu peux prendre une com, après, il y en a qui disent, non, mais je prends des honoraires. Mais c'est quoi le montant des honoraires?
Mais c'est marrant parce que, encore une fois, et on a tout le temps cette réaction comme t'as fait avec ces yeux écarquillés qu'on
joue la
que
comédie.
Les auditeurs ne voient pas. Mais « Ah, t'es avocat et tu prends une commission. » Mais et ça, j'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi, en fait, un agent a le droit de prendre une commission? Pourquoi, tu le disais tout à l'heure, un salarié, un commercial a le droit de prendre une commission et l'avocat, il n'a pas le droit?
C'est tout l'imaginaire. C'est tout l'imaginaire. C'est voilà.
Le droit, il
n'a
pas le droit de gagner de l'argent.
C'est
exactement en fait.
Mais il faut déconstruire.
Je pense que c'est le poids de la fonction et le côté symbolique de l'avocat. T'en parlais d'ailleurs au départ avec la plaque, la robe, le maître, etc. Et je pense que c'est sincèrement ça. Parce que la mécanique derrière, si tu veux, la justification, tu dis, mais c'est logique par rapport au travail fourni. Mais je pense que tu as le mythe, si tu veux, de cette fonction-là. Et de toutes les fonctions associées ou pas, mais tu vois, les notaires, tout ce type
très
de fonctions.
Noble. Hein, on voit le.
Ah,
c'est ça, on voit,
ah,
excusez-moi,
mais c'est
on
un bon exemple.
On imagine l'avocat avec, tu sais, arrivé en calèche, alors que lui, il est arrivé vélo électrique, tu vois. Et donc, du coup, mais... il faut déconstruire le mythe.
Je suis pas là pour défendre quoi que ce soit. C'est juste que c'est vrai que ça m'étonne un peu cette idée que l'on a du fait de dire, oh, c'est choquant qu'un avocat puisse prendre une commission. Il y a des confrères qui nous disent qu'effectivement, ils ne prennent jamais de commission parce qu'ils considèrent que c'est pas normal, mais à l'inverse, voilà, ils prennent un honoraire complémentaire de résultat.
Ouais, c'est ça. Exactement.
C'est exactement même. La même chose. Là, tu rentres dans les...
Voilà. Ou alors, tout simplement, ils prennent au temps passé, et ça, c'est très bien. Et ça, moi, c'est mon cas de figure, la plupart du temps, sauf quand le client ne peut pas, parce que parfois, je vais vous dire, vous conseillez une joueuse de foot qui veut que vous l'accompagniez dans la négociation de son contrat. Pour X raisons, elle ne veut pas d'agent, elle aime bien le côté, effectivement, un peu plus sécurisant, on va dire, de l'avocat, pour diverses raisons. Elle vous dit, j'aimerais bien que tu m'accompagnes et que tu négocies mon contrat de travail avec mon club, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour elle de lui dire, bah, très bien, alors moi je prends 250 euros de l'heure, voilà, c'est transparent, par contre moi je prends pas de commission. Hein. Mais vous savez, le temps que vous allez passer pendant toute l'année à l'accompagner, à aller la voir, à l'appeler, à négocier,
c'est chronophage.
Et du coup, à la fin, elle va se retrouver, alors un, elle a aucune idée de combien elle va payer à la fin de l'année, vous-même vous savez pas, puisque ça va durer peut-être 10 heures, peut-être 100 heures. Et puis surtout, elle va se retrouver à payer un montant énorme. Alors qu'à l'inverse, si vous lui dites, ben voilà, écoutez, on va faire ça, on va prendre 5% du montant de ton contrat, et ben au moins c'est clair. Et puis, ben, si tu arrives à me négocier 10, ben, c'est bien, tu auras 500. Si c'est 100, ben, tu auras 5000. Enfin, et finalement, c'est un peu, peut-être un peu plus juste comme système de rémunération.
Alternative football. Alternative football.
On vient me voir, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, vous êtes avocat, du coup, vous pourriez prendre la com et vous me reversez derrière. Mais non, c'est hors de question. Ouais. C'est absolument interdit. Alors qu'un agent, lui, tout à fait le droit de le faire. Puisqu'il a une société, il est un commercial, il prend le mandat. Et il y a deux options. Soit il inscrit ses collaborateurs, parce qu'on a le droit d'inscrire des collaborateurs sur nos licences d'agent. Donc en fait, il inscrit un collaborateur qui n'est quoi ? Finalement, rien d'autre qu'une personne qui n'a pas la licence et qui fait l'activité, qui ils vont reverser, et même la Fédé, enfin tout le monde valide, c'est autorisé. Ou alors, tout simplement, ce qu'on voit souvent, prestations de services, conseils, scouting, je ne sais
quoi.
Ça
a été retoqué, hein. Il y a beaucoup de personnes, enfin la FFF, à ce qui paraît, elle a vérifié parce qu'elle a retoqué pas mal de commissions, enfin de rétro-commissions.
Moi, je pense qu'elle retoque beaucoup. C'est surtout quand des clubs, ça c'était une pratique qui était très courante auparavant et qui ne se fait plus. Moi, quand on me le demande, je conseille surtout pas de le faire, évidemment. C'est que les clubs, souvent, se retrouvent embêtés avec un agent qui n'avait pas la licence. On ne pouvait pas du coup lui payer sa commission, donc on lui doit 1000 euros. On ne pouvait pas dire je te paye ça correspond à X% du contrat de tel joueur. Donc ce qu'il faisait, c'est des contrats de scouting. Voilà, on va dire que tu es un scout qui va repérer pour nous des joueurs et puis on te paye un montant forfaitaire. Ça a été retoqué, non pas tant par la Fédé que par l'URSSAF. Il y a des contrôles URSSAF, beaucoup. Ou des plaintes pénales qui ont conduit à certaines demandes. Mais je pense que c'est ça qui a été retoqué. Des agents qui reversent à d'autres non licencié à travers, encore une fois, tout type de contrat. Je pense que c'est une pratique très, très, très courante.
C'est répandu. Et est-ce que c'est légal? C'est légal ou...
Encore une fois, en fait, la loi vous dit que...
c'est hyper intéressant comme lecture, parce que tu vois, Mathieu, t'as la simplification du débat d'habitude de dire agent versus avocat, etc.
Sache quelque
chose.
En fait,
c'est bien plus complexe que ça.
Quand tu fais du droit... La loi dit que, et quand on commence comme ça, ça veut dire qu'on peut faire autre chose.
Derrière, tu vas te faire recadrer.
Non, on peut faire autre chose. Ça veut dire qu'on... La loi dit que, mais on peut aussi faire
mais
ça.
Mais non, pas du tout, au contraire. C'est que tu me poses la question, donc il faut toujours partir de ce que dit la loi.
Non,
tu... La question, c'est est-ce que c'est légal? C'est-à-dire, est-ce que la loi le permet?
Ouais.
Donc la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit, c'est l'article 222.7 du Code du sport qui dit « L'activité qui consiste à mettre en rapport deux parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui a l'objet de la pratique du sport, donc en gros un contrat de travail ou un contrat de transfert, l'activité qui consiste à mettre en rapport les deux parties intéressées à la conclusion de ce contrat doit être titulaire d'une licence d'agent sportif pour avoir le droit à être rémunéré pour cette activité de mise en rapport. Donc, encore une fois, c'est la mise en rapport. J'appelle un club, tiens, j'ai tel joueur, vous êtes intéressé, je vous mets en relation, je fais la négo, il y a le contrat, j'ai le droit à une commission. Pour ça, il faut être agent sportif. Donc effectivement, si finalement cette activité de mise en rapport, elle est faite par le collaborateur de l'agent, c'est interdit, c'est illégal. Ce que dit la loi et le règlement des agents sportifs de la FFF, c'est que le collaborateur d'agent, lui, doit être cantonné à des tâches administratives pour le compte de l'agent. Donc, secrétariat, assistance, potentiellement s'occuper du joueur, suivi du joueur et tous les besoins qu'il peut avoir au quotidien qui sont un peu extra-sportifs. Donc, la loi dit que, effectivement, c'est seul l'agent titulaire de la licence a le droit de faire cette activité de mise en relation et de négociation du contrat. Tous les, les alentours peuvent être faits par les autres. Mais encore une fois, ce que je dis simplement, c'est quand on dit « Ah, les avocats, ils font les prête-noms, nous, les agents, au moins, on est titulaire d'une licence », je trouve que c'est un peu hypocrite, parce que dans la réalité, on le sait, on le voit, il y a beaucoup de gens qui se permettent d'appeler des clubs parce qu'ils sont dans telle structure d'agent, c'est pas eux qui ont la licence, et pour autant, ça fonctionne. Et après, effectivement, dans le contrat, ça va être le titulaire de la licence qui perçoit. Ensuite, est-ce que quelqu'un va contrôler la manière dont ils se répartissent les fonds? Je ne suis pas certain. Enfin, la Fédé le fait, mais je ne crois pas qu'elle interdise à un agent de payer des bonus et des commissions, par exemple, sur le chiffre d'affaires à son collaborateur. Je pense, encore une fois, qu'on se trompe de, on se trompe de débat, on se trompe de problème. Y a beaucoup d'énergie qui est mise dans cette guéguerre. Je pense que, honnêtement, je le vois et j'en parle avec mes clients agents sportifs FFF aujourd'hui en France. La vraie menace, ce n'est pas les avocats ni les mandataires sportifs. La vraie menace, c'est les structures étrangères, anglo-saxonnes, qui débarquent en France avec des mastodontes, des budgets énormes, de la communication, du démarchage, qui d'ailleurs, pour la plupart, leurs représentants en France, ce n'est pas des licenciés. Mmh. Ce sont des gens de terrain qui on appelle des scouts officiellement, des rabatteurs parfois, qui viennent et qui s'occupent des joueurs et puis qui, eux, en fait, font appel à la grosse structure qui, elle, faut le rappeler, en France, il y a une exception, on a parlé tout à l'heure de la licence d'agent FFF, il y a un autre cas de figure qui est pour les ressortissants communautaires, donc tous les membres d'autres pays de l'Union européenne qui sont dans leur pays titulaire d'une licence, alors c'est pas une licence encore une fois, c'est une simple autorisation d'être intermédiaire, et qui prouvent qu'ils ont au minimum un an d'exercice dans leur pays, etc., peuvent venir en France et faire ce qu'on appelle la demande d'autorisation provisoire d'exercer la profession d'agent sportif en France. Donc en fait, il y a les agents FFF d'un côté, et de l'autre côté, vous avez tous ceux qui sont détenteurs de cette autorisation provisoire qui est délivrée pour un an, et qui est assez simple. Moi, j'ai aussi beaucoup de clients qui sont des agents étrangers, donc quand ils veulent venir en France, un Hollandais, un Espagnol, un Portugais qui vient en France pour exercer, on fait un acte donc, de candidature auprès de la Fédé, c'est assez simple, ça passe en commission des agents sportifs de la FFF, et vous avez une autorisation provisoire pendant un an d'exercer au même titre qu'un agent FFF. Et donc ces gens-là, c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, vous avez de plus en plus de grosses structures étrangères qui ont leurs petits représentants en France, ces représentants s'occupent du joueur, font le suivi, la réalité est faite, souvent font les négos, parce que c'est eux qui ont les contacts avec les clubs. Puis au moment de la signature, il y a le gros agent qui vient, qui intervient, qui prend sa com et qui lui répartit. Et je pense que ça, c'est plus une menace. Si on doit parler aujourd'hui du futur de l'activité d'agent sportif, ça, c'en est une. La deuxième aussi, et j'ai Il y a certains agents qui sont très, très, très au fait de ça. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on soit très énergique dans le combat à mener. Mais c'est surtout la nouvelle réforme à venir de la FIFA sur les agents sportifs. Ouais. Parce qu'on en parle peu en France, on parle beaucoup des avocats mandataires. La FIFA bosse depuis des années. Et là, alors l'entrée en vigueur est repoussée là, depuis quelques années. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise, il y a eu, je pense aussi, un gros lobby des agents. Et à juste titre, parce que là, le projet... tel qu'il est, de nouveau règlement FIFA qui est censé entrer en vigueur à l'été ou à la fin de l'année, il plafonne les commissions d'agents à 3%, il permet aux joueurs de résilier le mandat de manière unilatérale et anticipée sans justification, donc du jour au lendemain, il peut dire « en fait, j'arrête », dès lors qu'il va ensuite signer seul, soi-disant, son contrat de travail. En fait, l'agent sera l'agent du club, le nouvel. Ouais. Et donc, on autorise. Alors, c'est très inspiré du droit suisse. Hein. Il faut savoir que le droit suisse permet à un joueur de casser un contrat exclusif de mandat à tout moment et sans justification. En France, c'est pas le cas. Le droit français dit que si tu signes un mandat avec un agent ou un mandataire pendant une certaine durée à titre exclusif, tu ne peux le rompre de manière anticipée que pour faute. Une faute qui empêche la poursuite des relations. Donc l'agent fait rien ou a mal parlé ou a fait ci ou a fait ça. Voilà, faut avoir une vraie justification. Là maintenant, le futur règlement, ça va permettre aux agents, aux joueurs, de rompre. Et ça, c'est une insécurité totale. Et donc, l'agent sportif va se retrouver en fait en insécurité, à travailler pendant toute la saison pour son joueur, à faire tout l'accompagnement qu'on connaît, etc. Et puis au dernier moment. Exactement. Au moment du mercato, il y a un club, un autre agent, je ne sais quoi, qui lui permet de. Il pourra casser son contrat et aller libre. L'agent se retrouve totalement à nu, sans recours, il ne pourra plus rien faire. Et quand bien même il va au bout et il arrive à faire son deal, on est en train de lui dire attention, 10% c'est trop. Prends trop d'argent, on va te le plafonner à 3. Ouais. Je sais pas comment ils vont réussir à...
C'est pour l'été, là,
c'était prévu 24. Déjà l'été dernier, il y a eu des grosses batailles, ça a été repoussé, ça devait être cet hiver, mais c'est encore repoussé. Le congrès de la FIFA n'a pas validé au mois de septembre, donc là, on sait pas. C'est dans les tuyaux, en tout cas, et ça va arriver. Je pense que vraiment, s'il y a une crainte à avoir aujourd'hui, moi, si j'étais agent sportif, et c'est ce que je dis à mes clients... Ouais. La vraie crainte, c'est ça.
Mais c'est ce que j'allais dire, cette réforme de la FIFA, les sociétés privées étrangères qui viennent concurrencer la spécificité française avec les licences, etc. En fait, est-ce qu'elle ne nous pousse pas vers finalement un rapprochement entre les deux fonctions ? Et est-ce que la question, c'est pas de dire, OK, avec ces paramètres-là, comment on travaille mieux ensemble ? Et si on revient au dialogue que tu évoquais, et certes, il y a 1-2% peut-être des joueurs qui n'ont pas besoin d'agent parce qu'il y a très peu de nécessité de prospection et de commerce. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Mais des joueurs professionnels qui ont besoin d'agents et d'avocats, ça reste l'immense majorité.
Ouais, bien sûr.
Donc, est-ce que le modèle ne doit pas évoluer vers un renfort
Un binôme. Pour moi, le schéma parfait, c'est un binôme. Et d'ailleurs, justement...
Quand tu dis binôme, est-ce que tu peux monter une structure avec un avocat avec un avocat et un agent? Mais je crois que l'avocat, il peut pas sortir de... C'est possible, enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu crois que c'est possible?
Bien sûr, c'est possible. L'avocat, encore une fois, n'a pas le droit d'être commerçant. Donc, il n'a pas le droit d'être gérant d'une société commerciale ou président d'une SAS ou gérant d'une SARL. En revanche, il a tout à fait le droit d'être actionnaire de la dite société. Mais aujourd'hui, moi, si je veux investir dans un restaurant ou dans un business, quel qu'il soit, j'ai le droit d'être actionnaire. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est d'être au quotidien l'exécutant commercial de cette société. Donc, je peux tout à fait être... Il y a même une autre exception, c'est que je pourrais même être... On peut, en tant qu'avocat, être président d'une société commerciale s'il y a un directeur général qui gère l'exécutif. Non, mais parce qu'encore une fois, il faut comprendre l'esprit. C'est effectivement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agent, l'avocat n'est pas censé être un commerçant, donc ce n'est pas son activité du quotidien. Mais ça ne lui empêche pas, encore une fois, de gagner de l'argent et d'investir et d'être propriétaire.
Mais tu vois, ça, je savais pas.
Sur ta question, effectivement. Ouais.
Tu vas le chauffer par des
études de droit. Tu vas me faire une proposition en sortant.
Je le sens. À mon avis, vous partez avec un deal et Edouard Cissé, il prend des cours en ligne de droit.
Donc, encore une fois, oui, on peut s'associer, si tu veux, dans une société commerciale.
deal. C'est vendu.
La question, encore une fois, c'est que moi, je ne peux être qu'un actionnaire. Je ne pourrais pas être le président ou gérant de la société qui, au quotidien, va exercer des actes de commerce. Et encore une fois, je ne pourrais pas, effectivement, en théorie, aller toute la journée appeler des clubs pour proposer les joueurs, etc. Mais, et ça c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure en aparté, mais on peut le faire de temps en temps. Moi, quand on me dit, attends, t'es avocat, t'as pas le droit de prendre ton téléphone pour appeler un président de club. J'entends, je vais pas faire la tournée et passer mon temps. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de le faire. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question, que c'est bien, je pense, d'être en binôme. Moi, aujourd'hui, je suis très sollicité par des joueurs, honnêtement. Hein, forcément, vous êtes l'avocat d'un... un mec comme Antoine ou d'autres, ça donne envie. Il y a des joueurs qui viennent. Oh, j'aimerais bien que vous soyez moi aussi mon conseiller, etc. Je leur réponds systématiquement, et je le dis s'il y en a qui nous écoutent, avec plaisir pour vous accompagner. Mais je ne le ferai pas seul, parce que ce n'est pas mon métier.
Question subsidiaire sur justement ce que tu fais, que ce soit avec Antoine Griezmann ou d'autres de tes clients, sur ta fonction de conseil également. Quand il s'agit d'investissement, soit dans les sociétés d'investissement immobilier, de la gestion du patrimoine et ces choses-là. Est-ce que tu interviens également sur le conseil ? C'est-à-dire, c'est sur ce type d'investissement qu'il faut aller. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie, on parlait de sponsors tout à l'heure. Ça ne se passe pas toujours bien avec les sponsors. Quand un joueur, notamment Antoine Griezmann l'avait fait avec Huawei, veut sortir d'un contrat, est-ce que toi, tu as simplement la fonction d'exécuter cette tâche-là en disant « moi, je veux que le contrat s'arrête, donc tu fais des marches » ou est-ce que tu as aussi une fonction de conseil en disant « il vaut mieux rester, il ne faut pas rester » enfin, est-ce que j'exprime encore une fois très mal ? Je suis pas très fort avec mes questions aujourd'hui. C'est le début d'année. Ce que je veux dire, c'est où est-ce que ta fonction commence et s'arrête ? Est-ce qu'il y a du conseil vraiment sur et de la réflexion sur ce qu'on fait ou est-ce que c'est vraiment le cadre juridique et légal dont tu t'occupes ?
Bien sûr. Là encore, si on parle de tu l'avocat, encore une fois, il y a tout type d'avocat, tout type de pratique et on peut aller du simple exécutant juridique, entre guillemets, comme tu dis, ce à quoi beaucoup aimeraient nous cantonner.
Ouais.
Et puis il y a tout le reste. Moi, personnellement, je suis très aussi tout le reste, c'est-à-dire que j'ai du mal à... voilà, juste exécuter le contrat, déjà forcément, la rédaction va donner notre avis, on va conseiller en disant, tu sais, t'aurais peut-être pu faire ça, t'aurais peut-être pu... Mes agents sportifs, enfin, les clients agents que j'ai, c'est évidemment, tiens, est-ce que t'as pensé à proposer au club telle clause ? Parce qu'aussi, c'est une richesse, c'est qu'on voit plein de contrats à travers plein d'autres clients et d'autres pratiques, et du coup, on a accès à, voilà, tiens, tu devrais penser une évolution de salaire en fonction de si, tiens, est-ce qu'on pourrait pas protéger le joueur de cette manière ou prévoir tel cas de figure que j'ai eu un jour, etc. Donc c'est du conseil. Par rapport, alors pour répondre à la première partie, parce que ta question était compliquée.
Question arabe. les questions arabes.
Déjà,
c'est ma spécialité.
Moi, j'ai la réponse. C'est pour ça que avec une question
j'ai,
pareille.
Maxime Marchand qui me regarde en souriant et Edouard Cissé qui est mort de rire. Question à rallonge, ma spécialité. Mais en plus, aujourd'hui, elles sont mal formulées. Donc,
Je vais essayer d'être court dans la réponse. Par rapport au conseil, moi, c'est vrai que j'aime bien donner les conseils un peu qui vont au-delà de la pure fonction juridique. Après, c'est du cas par cas. Pour reprendre les agents, j'ai certains agents qui sont très expérimentés, ils sont des agents sportifs depuis des années, qui eux disent, voilà, moi je fais tout toi, voilà ce que j'ai négocié avec le club, voilà ce que j'ai négocié avec le joueur, est-ce que tu peux me faire le contrat ? On leur fait le contrat. J'en ai d'autres, moi, expérimentés, qui me disent, j'aimerais bien que tu viennes avec moi en égo. Parce que là, j'ai un club, mais je sens que, tu vois, notamment récemment, ça m'est arrivé, à chaque fois que je lui demande quelque chose, par exemple, tu vois, j'aimerais qu'on mette une clause dans le contrat, une année en plus, si le joueur a fait tant de pourcents de matchs. Et le mec, directeur sportif du club, me dit, non, ça, c'est illégal. En l'occurrence, il a raison, c'est une clause potestative. Mais après, il me dit, alors au moins, s'il joue tant de pourcents de matchs, son salaire, il augmente de temps. Non, mais ça, c'est interdit, c'est illégal. Et là, je lui dis, non, par contre, là, il t'a mené en bateau, c'est pas vrai, ça, c'est absolument légal. Oui, mais si, mais ça. Et en fait, souvent, on lui répondait, non, mais ça, c'est pas vraiment possible, c'est pas juridiquement. Il dit, tu sais quoi, tu peux venir avec moi au rendez-vous, comme ça, on fait. Et on est allé ensemble, la négo forcément était beaucoup plus productive.
Ouais.
Et il s'est dit, mais c'est génial. Mais en fait, et systématiquement, non, il m'appelle pour aller en négo quand il y a des discussions avancées et on y va tous les deux. Il y a l'agent, l'avocat, et c'est génial.
Ouais.
Après, il y en a d'autres qui sont encore plus jeunes ou des étrangers, j'en parlais tout à l'heure. Et je dis, on n'a pas vocation à passer notre temps au téléphone et à appeler des gens. Maintenant, de temps en temps, sur quelque chose de très ciblé, moi, je considère que ce n'est pas quelque chose qui devrait être interdit. Je sais que tel club cherche tel joueur, je connais bien le président, le directeur sportif, j'ai mon client qui veut mettre sur le marché français tel joueur, est-ce qu'on ne peut pas passer un ou deux coups de fil en disant, tiens, voilà, j'ai un client qui a tel joueur, est-ce que je peux vous mettre en relation ? Est-ce qu'on peut discuter ? Et puis voilà, ça peut arriver. Pour la première partie de ta question sur les investissements, je vais répondre aussi très rapidement, mais moi, au départ, j'avais un peu cette... pas phobie, mais je suis pas très finance,
d'accord,
investissement, économie, start-up, levée de fonds, etc. J'avais pas une appétence vraiment très forte avec ça. Gestion de patrimoine, je pense que c'est extrêmement risqué. On a vu beaucoup, beaucoup de choses très négatives
au début de ta
ça.
carrière.
Oui.
Parce que tu n'avais pas de thunes. Après, quand tu commences à avoir de l'argent, tu t'intéresses à ça. Non, mais c'est logique.
C'est vrai aussi, c'est, peut-être.
Je dis ça, c'est parce que même pour les jeunes joueurs, ouais, moi, je m'en fiche et tout ça. Mais quand tu commences à avoir de l'argent, intéresse-toi.
Oui, je leur conseillais le ouvrir une assurance vie, fais ci, fais ça, X% de ton salaire. Je leur disais
tu
souvent,
le
t'as 10 ans de carrière versus 40 ans, bah, tu vois, tu devrais considérer qu'un quart de ton salaire t'appartient, le reste, tu l'épargnes et fais des investissements, ceci, cela. Pour le reste, gestion de patrimoine, souvent, c'est une connotation un peu difficile. Et puis, je me dis, en fait, je ne maîtrise pas assez.
Ouais.
Donc, si je conseille ça à mon client et qu'il se plante, je ne vais pas être à l'aise. Et puis, ça va être préjudiciable. Même présenter un gestionnaire de patrimoine, parce qu'évidemment, on est ultra sollicité. Avec, oui, vous nous amenez des clients, vous payez une commission, ceci. Mais systématiquement, ça, j'ai toujours refusé. Après, il y a eu une exception, c'est vrai, et c'est Sorare qui m'a fait rentrer dans ce milieu-là. Et ça a été quelque chose où voilà, j'ai été sollicité à l'époque par les gens de Sorare il y a des années, qui rêvaient d'avoir Antoine Griezmann parmi leurs investisseurs, et qui du coup m'ont sollicité pour demander si Antoine serait intéressé pour parce qu'il aime beaucoup le jeu, il aime beaucoup Football Manager, il avait vraiment le profil quoi. Et
c'est donc, la cible, franchement, c'est
c'était la cible. Ils sont venus me présenter ce projet. Franchement, j'ai pas honte de le dire. On est en 2018, je pense, ou 2019. On parle de NFT, trading de cartes en Ethereum, etc. J'étais complètement perdu. ça me parlait pas du tout. La première fois, je m'étais dit, malheureusement, comme la plupart des startups, parce que je suis très sollicité pour ça, je disais non. Un, c'est pas mon domaine. Deux, franchement, je comprends pas assez le business. Je peux pas conseiller à mon client d'investir là-dedans. Puis bon, ils sont revenus, ils ont insisté. J'ai fait analyser ça. Parce que là encore, moi, je crois en la complémentarité des métiers. J'ai fait analyser ça par quelqu'un qui est très startup, business, business plan, etc., qui m'a dit, c'est extraordinaire, c'est fou, le modèle est incroyable, faut y aller. Bon, un deuxième, un troisième, et puis en fait, tout le monde m'a un peu, voilà, et j'ai senti le truc, j'ai bien aimé, on y est allé. J'ai dit, Antoine, tu devrais investir là-dedans, c'est super. Antoine, très enthousiaste, lui, dès qu'il s'agit de jeux, de technologie et d'investissement. Ouais. J'ai vu d'ailleurs un article des Échos il n'y a pas longtemps qui le présentait comme un des pionniers, parce que c'est vrai qu'en France, il y a peu d'athlètes investisseurs, alors ça commence de plus en plus. Du coup, on l'a fait. Ça a été.
Ça va pour un premier coup, tu veux.
C'est ce qu'on me dit. Alors maintenant, tous les financiers me disent ça, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, t'as commencé par beaucoup de robots et tu ne referas jamais un truc pareil. Donc tout le reste va te décevoir, en fait.
Ouais, mais tu gardes.
Mais bon, garde ta position. Voilà, il y a eu ça. Et depuis, en fait, j'ai juste réalisé qu'on pouvait, avec ces conseillers que j'ai pu voir autour, qui sont plus sur l'aspect financier, voilà, mettre une petite équipe en place et conseiller Antoine et d'autres, du coup, à qui je propose effectivement un petit accompagnement sur des investissements qui sont, je trouve, très intéressants à deux égards. C'est un, la start-up, c'est un investissement qui peut, alors un peu risqué, mais qui peut s'avérer rémunérateur. Mais surtout, c'est des investissements qui peuvent être responsables. Donc, ce n'était pas le cas de Sorare, c'est un jeu et c'est marrant. Mais depuis, vous verrez que Antoine et d'autres, il y a de plus en plus de sportifs qui, à travers... leur situation, leur pouvoir d'achat, leur surface financière peuvent non seulement investir dans des petites boîtes qui va aider à développer en tant que business angels, mais en plus des boîtes qui sont bien pour la société. Donc voilà, il y a des boîtes qui... Il y a un peu un thème, on va dire, dans les investissements, qui sont la tech, qui sont les startups, mais qui sont aussi surtout avec une vocation un peu sociale, sociétale, positive. Exactement, et avoir un impact positif à travers les invests, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi qui viens beaucoup du milieu du droit international, humanitaire, j'ai beaucoup d'engagement humanitaire par ailleurs, je suis très content de pouvoir un peu mixer, on va dire, ces deux choses.
Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était avec grand plaisir de te recevoir sur Alternative Football.
Merci à vous. C'était un plaisir, un honneur. Bon moment. Et je sais qu'on peut poursuivre ces discussions pendant des heures. Donc,
absolument.
Avec plaisir.
On aura l'occasion de le faire offline, comme on dit. Merci à tous. À très vite. N'oubliez pas de liker le podcast sur les différentes plateformes.
Et c'est minimum 5 étoiles.
Et c'est minimum 5 étoiles, exactement, comme le Brésil. Comme toujours, n'hésitez pas à nous suggérer aussi des invités ou des thèmes. On en a eu quelques-uns, sur LinkedIn notamment, qu'on a bien noté, sur lesquels on travaille. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut.
Salut, salut.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.